médias centraux sont verrouillés par le système. On a négligé très longtemps le combat des idées.
La crise a des racines très anciennes et elles sont très difficiles à analyser. On peut faire une lecture nietzschéenne ou spenglerienne de la crise. Nietzschéenne, eh bien, c'est une crise, un nouveau chapitre du nihilisme qui s'ouvre, en particulier en Europe occidentale. Moi, c'est la lecture que je fais mienne, ou alors la lecture de Spengler, mais qui me semble trop catastrophique et crépusculaire. C'est que l'Occident, en l'occurrence l'Europe et l'Europe de l'Ouest, est trop moribonde pour survivre. Elle a fait son temps. Moi, je préfère la lecture de Nietzsche. Donc, nous traversons un chapitre, un nouveau chapitre de nihilisme actif en Europe. L'Europe est sortie d'histoire, l'Europe de l'Ouest, hein. L'Europe est sortie d'histoire, est sortie de la politique. En un mot, elle est sortie du réel. Donc c'est le dernier homme nietzschéen, le dernier homme de Nietzsche, aujourd'hui triomphe à Bruxelles et dans toutes les capitales de l'Europe occidentale. Et ce dernier homme se revendique d'une charité dévoyée, c'est le fameux empire du bien décrit par Philippe Mouret et qui est en train de nous tuer parce que désormais, c'est la politique des droits de l'homme qui n'est pas une politique, comme l'avait dit un intellectuel français, Marcel Gaucher. Les droits de l'homme sont une impolitique, sont un impasse du politique. Nous sommes sortis du politique et c'est ça qui est en train de nous tuer. Et c'est un mal très profond. Alors, il faut faire le pari que faisait Dominique Venner, qui nous réunit aujourd'hui à l'Institut Iliade. Et le pari de Dominique Venner, c'était que l'Europe traversait une éclipse historique, mais ça n'est jamais qu'une éclipse. C'est ce qu'il appelait la dormition. L'Europe était entrée en dormition, mais il est possible qu'elle se réveille. Et c'est le pari qu'il nous faut faire. Et ça passe par un combat culturel, d'où notre présence aussi, qui peut-être peut nous faire espérer, peut-être augurer à l'avenir d'une reconquête du pouvoir politique. Mais cette crise, la crise migratoire, la crise économique n'est qu'un chapitre, en fait, n'est qu'une déclinaison de cette crise du nihilisme.
Si on regarde la France, où sont des racines de cet nihilisme, parfois les gens disent que c'est dans la philosophie des Lumières, parfois les gens disent, les experts, les philosophes disent qu'il vient de l'idéologie de 68, aussi comme vous avez indiqué aujourd'hui au Congrès. Selon vous, c'est où la racine de cet nihilisme, un nouvel type de nihilisme?
C'est la fin, moi je le situe à la fin comme Nietzsche, à la fin du 19e siècle, dans tout ce qu'on appelait les vagues des poètes maudits. Je suis un inconditionnel de Arthur Rimbaud, qui est, je trouve, le plus grand poète français, que les Français défendent trop mal, parce qu'il est aussi grand que Nietzsche, ou chez vous, que Sergueï Essénine, mais cela étant, Rimbaud était affecté d'un mal, qui est le mal de la postmodernité, et il a écrit jeune, à 16 ans, les lettres du voyant, les fameuses lettres du voyant, et il fixe le programme de la postmodernité dans ses lettres. Et en réalité, moi, c'est à la fin du 19e, donc je situe les racines du mal. Et Rimbaud dit la chose suivante, et toutes les avant-gardes vont s'y identifier, « Je est un autre ».« Je est un autre ». Ça veut dire que je ne suis pas moi-même. Ça veut dire que j'ai perdu mon identité. J'ai perdu mon assignation identitaire. Et la première des assignations identitaires, c'est l'assignation sexuée. Mais si « je est un autre », »,« je est une femme », je est un homme, je est un cyborg, je est un trans. Et Rimbaud, sans le savoir, Rimbaud inconsciemment, par une prémonition de poète, a fixé les traits, à grands traits, à gros traits, le programme de la postmodernité. C'est une fatigue d'être humain. En réalité, l'Occident, depuis les Grecs, nous avons désenchanté le monde. Et ce désenchantement nous a conduit à désenchanter, c'est le dernier stade du nihilisme selon Nietzsche, à désenchanter l'homme. Nous n'assumons plus la condition humaine. La condition humaine, c'est quoi? Eh bien, c'est l'assignation identitaire, comme indiqué. C'est la finitude, c'est la mort, c'est la maladie, comme disait le Bouddha. C'est la maladie, la mort, la vieillesse. Et ça, nous n'en voulons pas. Nous voulons dépasser cette finitude, parce qu'elle n'est pas satisfaisante. Et le postmodernisme rejoint tout le transhumanisme à travers cette grande lassitude d'être soi, qui traverse tout le continent européen. Tous les maîtres que nous nous sommes donnés depuis 68... Et 68 n'est jamais que la traduction dans la masse de la révolution qui avait été amorcée par les avant-gardes, en fait. Via la pop culture, ce qu'on appelait la sous-culture, 68 a mis à la portée de tout le monde une révolution qui était déjà engagée depuis quasiment un siècle. Et cette révolution, eh bien, c'est une révolution du désir, de la régression, puisque le désir est une régression vers l'enfance. Et il correspond à la phase historique qui est la nôtre. Nous avons cessé d'être des producteurs. Aujourd'hui, les producteurs sont en Russie, sont en Chine. Ce qu'on a pu appeler la paléo-bourgeoisie. Elle a beaucoup de défauts, cette paléo-bourgeoisie, mais elle a une qualité, cela dit. Et il faut la lui concéder. C'est l'âpreté au gain. C'est le labeur, le travail. C'est la bourgeoisie décrite par Max Weber. Et nous sommes devenus une néo-bourgeoisie, d'où le thème de Bobo, de bourgeois bohème, pour définir ce que nous sommes. Nous ne sommes plus que des consommateurs. Et le consommateur a besoin que, au préalable, le désir ait été libéré. Il a été libéré par 68. Macron, je crois qu'on peut faire la lecture suivante du phénomène Macron en France. Disons que pour les téléspectateurs russes, il faut une précision. Il est possible qu'à la présidentielle, au deuxième tour de la présidentielle de 2017 en mai en France, il n'y ait aucun des deux candidats des partis centraux qui dominent la scène politique en France depuis 50 ans, les socialistes et les républicains à droite. Et Macron est venu se glisser dans cette absence des deux partis centraux. Et Macron, je crois, est la réponse du système sur le schéma des coalitions à la demande, des coalitions, pardon, à l'allemande, donc des coalitions centristes, centre-gauche, centre-droit, centre-mou. C'est la réponse à la montée des populismes. Et tout le dilemme et tout le drame des populismes, et en France, c'est encore plus frappant que chez nos voisins européens, c'est qu'en France, il y a un populisme de gauche, incarné par Mélenchon, qui est minoritaire, qui fait 10%, et un populisme de droite, celui de Marine Le Pen, qui fait 25%, peut-être plus. Et il n'y a aucun point d'accord entre ces deux populismes. Dans tous les cas de figure, Mélenchon refusera une alliance avec Marine Le Pen, même si Marine Le Pen appellerait de ses voeux cette alliance. Donc la coalition du centre, la réponse du système, la réponse du nihilisme, à travers le phénomène Macron, risque de triompher en 2017, en portant ce candidat au pouvoir qui n'est jamais que... Pardon, qu'un avatar de JFK, de Kennedy. En France, on avait des personnages comme ça dans les 60 de Giscard, d'une forme de jeunesse libérale, libertaire, qui est en passe de triompher, malheureusement. Moi, je trouve qu'un des problèmes de la France dans les circonstances actuelles, c'est que la France était à l'avant-garde sur la question du populisme, assurément, à travers le premier lepénisme, le lepénisme de Jean-Marie Le Pen, le père de Marine Le Pen. Nous étions indiscutablement un pays précurseur en Europe, puisque le populisme en France se déploie dans les années 80. Mais malheureusement, il a plafonné en 2002. En 2002, Jean-Marie Le Pen a été au second tour de l'élection présidentielle et le système s'est mobilisé très très largement, très massivement contre lui. Et on néglige dans nos milieux, et c'est moins frappant chez vous en Russie, mais c'est frappant en Europe de l'Ouest, la puissance du système. Le système a énormément de ressources. Il est capable de tricher, on l'a vu en Autriche. Rappelez-vous, la première élection du président, manifestement, il y avait une triche massive dans le vote électronique des étrangers. Certes, le candidat populiste a été battu, mais je crois que le système est disposé à tout pour faire obstacle et pour faire barrage au triomphe du populisme en France. Et on peut craindre que, c'est même pas qu'on peut craindre, c'est dans tous les scénarios possibles et envisageables, Marine Le Pen ne peut pas gagner le pouvoir en France. Le système, pour l'heure, on ne sait pas ce qui peut permettre à Marine Le Pen de gagner le pouvoir. Certains peuvent dire des attentats terroristes. Oui, très bien, il y a eu des attentats terroristes, le Bataclan. Juste après, il y a eu en France les régionales. Marine Le Pen a fait un score honorable, mais elle n'a gagné aucune région. Donc il semblerait qu'en France, le système ait encore les moyens d'assurer sa préservation et sa survie.
Et si on regarde la base philosophique de la résistance à nihilisme, de la résistance à cette monte unipolaire qui est dans cette agonie, veut prolonger sa vie par les moyens artificiels, quelles sont cette idéologie de la résistance? Quelles sont les bases philosophiques? Qu'est-ce que c'est selon vous?
Alors les bases philosophiques, on est en train d'en jeter simplement les bases aujourd'hui. On a pris énormément de retard, surtout à droite, puisqu'on a négligé très longtemps le combat des idées. On a considéré que l'intellectualisme était une sorte de ce qu'on appelle en français du jus de crâne, donc un combat inutile et superfétatoire, en tout cas superflu. Donc on a pris beaucoup de retard. La pensée, il y a une très longue éclipse de la pensée conservatrice en France pendant un demi-siècle. En fait, tous les penseurs qui comptent depuis un demi-siècle en France, exception faite d'Alain de Benoît, mais Alain de Benoît est par-delà la droite et la gauche aujourd'hui, viennent tous de la famille du gauchisme. Donc il est temps pour nous, d'où le travail de l'Institut Iliade, de renouer avec la notion de gramscisme culturel que Alain de Benoît avait théorisé à la fin des années 70. C'est-à-dire, c'est le combat pour l'hégémonie dans la culture. Et l'hégémonie dans la culture en France, nous sommes les droites, en tout cas les conservateurs, de droite et de gauche, sont en train de la reprendre. Mais il y a encore énormément de travail à faire. Pourquoi? Parce que nous avons pris un retard considérable. J'ai pris l'habitude de dire qu'en France, le système est verrouillé, totalement verrouillé. C'est-à-dire que le gauchisme culturel, en l'occurrence les libéraux libertaires, qui professent un même catéchisme, c'est-à-dire ce catéchisme, c'est quoi? C'est un antiracisme de confort, c'est une défense convenue des droits de l'homme, et c'est une adhésion souvent honteuse, souvent contrariée, mais une adhésion à l'idéologie du marché. Donc c'est cette idéologie qui est triomphante en France, et elle a une rente de monopole, ce gauchisme culturel a une rente de monopole complète sur le champ universitaire, sur le champ de l'éducation, sur le champ de la culture, sur le champ des médias. Bref, ils tiennent absolument, tout. Enfin, l'institution, ils possèdent, ils ont la maîtrise de l'institution. Donc c'est cette maîtrise de l'institution que nous devons faire reculer. Et comment la faire reculer? Eh bien, en faisant reculer, moi je pense, en gagnant la victoire de la bataille du langage, en faisant reculer le champ de l'interdit, parce que le vrai pouvoir, le seul pouvoir, me semble-t-il, c'est la maîtrise du totem et du tabou. Il n'y a pas d'autre pouvoir. Carl Schmitt, qui a écrit une théologie politique, considérait que le politique procédait du religieux. Je pense en effet que le politique procède du religieux. Et c'est quoi le religieux? C'est la capacité à discriminer le pur de l'impur, l'interdit du licite. Et la politique procède de ce, symboliquement de cette distinction, de cette ségrégation qu'opère le religieux. Et l'interdit, le champ de l'interdit, est la privilégiature et le monopole de la gauche culturelle. Et c'est ça que nous devons... La réinformation s'est imposée à nous, mais comme elle s'est imposée aux Américains il y a un demi-siècle, les Américains ont jeté les bases il y a un demi-siècle de Trump, en fait, hein, en jetant les bases d'une révolution conservatrice. Nous nous sommes rendus compte, en France, c'est vraiment frappant, que tous les médias centraux sont verrouillés par le système. Donc nous n'avons pas accès aux médias centraux. Donc nous ne pouvons pas porter la parole que nous souhaitons adresser à nos compatriotes. Donc c'est créé à la marge, à la périphérie du système médiatique, toute une nébuleuse, mais beaucoup plus qu'une nébuleuse, une pléthore, une profusion de sites dits de réinformation, qualifiés par le système de fachosphère, alors que ça n'est jamais que de la réinfosphère, et qui nous permettent de contourner le verrouillage du système médiatique. C'est très encourageant parce que si vous prenez les sites dits de la réinfosphère, on peut en prendre deux, les deux plus notoires, c'est Égalité et Réconciliation de Alain Soral et F de Souche de quelqu'un d'autre. Et de toute évidence, ce sont les deux sites quasiment les plus consultés aujourd'hui par les Français. Parmi les plus consultés, beaucoup plus consultés que les sites des grands journaux, papier ou audiovisuel. Donc grâce à la réinformation, grâce à cette réinfosphère, nous pouvons respirer. Nous pouvons nous sortir de la nasse dans laquelle on a voulu nous enfermer et on a jeté les bases, comme souhaitons que ce soit la même configuration que chez les Américains. Chez les Américains, après la défaite dans les années 60 de leur candidat républicain, je crois que c'était Barry Goldwater, les Américains se sont rendus compte, les Républicains américains, plutôt ce qu'on appelle aux États-Unis les paléoconservateurs, pas les néo, les paléoconservateurs. Les paléoconservateurs, ce sont des gens qui craignent le choc des civilisations et qui ne veulent pas l'exporter ailleurs, ils ne veulent pas l'importer chez eux. Qui sont une droite conservatrice assez intéressante, ont pris la mesure de leur défaite idéologique. Tous les médias centraux, tout le système universitaire, toute la production éditoriale était portée par la gauche, à ce que les Américains appellent les démocrates, les libéraux aux États-Unis. Et donc ils ont jeté les bases d'un système de réinformation. Comment? Eh bien en produisant des bouquins, en créant des think tanks, en créant des fondations, en créant des supports radiophoniques, en créant des médias audiovisuels. Et donc, sur la longue durée, pendant 30 à 40 ans, donc, ils ont jeté des graines qui ont germé et qui ont permis, même si je pense que nous allons être déçus, nous sommes d'ores et déjà par le phénomène Trump, et vous, Russes, c'est encore plus frappant, puisqu'il semble avoir tiré un trait, pas définitivement, mais sur le rapprochement avec la Russie, c'est malgré tout l'existence de ces sites dans la périphérie du système qui a permis cette révolution conservatrice qui a abouti au succès de Trump à la dernière présidentielle aux États-Unis. Donc formulons le vœu qu'il en soit de même en France. Donc que tous les médias centraux sont verrouillés par le système. On a négligé très longtemps le combat des idées.